Je tiens tout d'abord à remercier Didier Fassin pour cette invitation dans ce colloque consacré à l'inégalité des vies, vie invisible, mort indicible. Cette question est centrale dans l'approche d'anthropologie morale et politique à laquelle j'ai été formée en travaillant avec Didier Fassin, et dans laquelle il s'agit d'interroger la circulation des valeurs, des émotions morales dans les rapports sociaux et leurs effets politiques. Mon point d'entrée n'est pas celui de la santé publique, mais celui d'une sociologie du droit. Et pourtant, on a vu dans les précédentes interventions combien ces domaines sont liés. Je m'intéresse ici au droit pénal, ce qui va déterminer qui va passer une partie de sa vie en prison, pour combien de temps et de quelle manière. Comment on peut être jugé digne de sortir de cette mort sociale, ou au contraire indigne. Je parlerai de mon étude sur le traitement pénal en maison d'arrêt en France. La prison est l'un des espaces problématiques de cette question de l'inégalité des vies. Problématique parce qu'il fait controverse dans l'espace public, problématique parce qu'il permet de poser explicitement la question des effets sur la vie et la mort, des inégalités sociales et de leur traitement institutionnel. J'ai commencé mon enquête en 2009, au moment du débat sur la loi pénitentiaire, dont l'un des enjeux était de répondre aux critiques virulentes sur l'indignité des conditions de détention, une humiliation pour la République, pour reprendre les termes d'un rapport parlementaire de 2000. La création du contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2008 venait instituer une autorité administrative indépendante pour contrôler notamment les prisons et le respect des droits des personnes détenues. La question du traitement des personnes détenues était ainsi posée dans le débat public, alimentée par un regard critique sur les conditions de détention, du fait de mobilisations militantes, du travail associatif, journalistique, de plus en plus aussi d'enquêtes de sciences sociales. L'opacité de cette part d'ombre de l'état de droit, selon la formule de Grégory Salles, devenait moins épaisse. L'épisode de l'incarcération des VIP suite à des affaires politico-financières n'est pas étrangère à ce nouveau regard critique sur les conditions de détention, mais également les mobilisations juridiques visant à faire reconnaître l'éligibilité des détenus aux droits communs, tant pour la santé que plus récemment pour le travail. Dans le même temps, le recours à l'incarcération n'avait jamais été aussi fort. Le flux d'entrants en prison au moment de l'enquête en 2011 était de 88 000 par an, une augmentation de 24% dans les 10 années où ces controverses publiques concernant les conditions de détention étaient les plus vives, accompagnées de recours en justice, de réformes législatives et de l'adoption des règles pénitentiaires européennes. C'est que dans le même temps, les lois pénales ont été durcies, en particulier s'agissant de situations de récidive avec l'adoption de peines planchers. Elles ont été formellement abrogées, mais la pratique d'aggravation de la sévérité en cas de réitération de l'infraction demeure fortement en usage. La prison est alors traversée de contradictions. L'enfermement est vivement critiqué, alors que la demande de prison est forte au nom de la protection des victimes, de l'affirmation de l'autorité de la loi. Plus encore, la peine carcérale en soi est une contradiction en démocratie. C'est un régime de privation de liberté, de mise au ban et d'invisibilisation dans un système qui revendique l'organisation politique de la liberté, de l'inclusion sociale et de la transparence. On retrouve ces contradictions dans le quotidien du traitement pénal, dans les injonctions à rendre la peine effective, dans sa dimension de privation et de pénibilité, et dans les injonctions à l'humaniser. Une problématisation politique, donc, et une problématisation pour les sciences sociales, dans la mesure où les usages de l'incarcération exposent, au regard des sciences sociales, la question des effets sociaux de la pénalité. Qui est en prison, pour combien de temps ? Les sciences sociales ont montré l'ampleur des inégalités sociales face au risque d'incarcération. Les études démographiques aux États-Unis sont particulièrement explicites sur le sujet, mais en France, à une échelle moindre, on trouve la même surexposition à la prison des hommes de milieux populaires et issus de minorités ethno-raciales. 97% d'hommes, 1 sur 7 n'a jamais exercé une activité professionnelle, 1 sur 2 se déclare ouvrier. 70% ont au plus un niveau de brevet des collèges ou de CAP, et également une forte surreprésentation d'étrangers ou de personnes issues de l'immigration récente, surreprésentation qui est un secret public tout autant partagé qu'il est refoulé. Des enquêtes remarquables ont lieu sur le moment du jugement et en particulier les audiences de comparution immédiate. Nicolas Herpin les qualifie de deux poids deux mesures pour souligner ces inégalités sociales face à la peine. Bruno Aubusson de Cavarlet décrit l'incarcération comme la peine des sous-prolétaires. Or, il ne s'agit pas seulement de voir les gestions différentielles des illégalismes, quels sont les illégalismes tolérés, ceux qui sont réprimés, les illégalismes de col blanc par distinction avec les illégalismes populaires, comme le soulignait Foucault, dont la formule est reprise par de nombreux travaux. Il s'agit aussi de voir l'appréciation différenciée de la normalité des vies et les effets de cela dans les pratiques du temps de l'enfermement. par analogie avec l'analyse de la santé publique et de l'espérance de vie que propose Maurice Halbwachs, selon qui les variations de mortalité sont liées à des causes tout autant sociales que physiques. Et là, j'en réfère à la leçon inaugurale de Didier Fassin. Et bien, de même, les variations face à l'incarcération et dans l'expérience de l'incarcération dépendent non pas des infractions commises seulement, mais aussi, surtout, de l'importance attribuée à la vie humaine, de la considération pour les personnes, considération qui est tout autant cognitive que morale et émotionnelle. Et donc, c'est pour essayer de comprendre ce qui se joue anthropologiquement que je vais développer ces observations que j'ai réalisées en prison. Comprendre ce qui se joue anthropologiquement dans l'incarcération a occupé les travaux des grands théoriciens de la pénalité. David Garland, notamment, s'est attelé à questionner les évolutions des cultures punitives. Il analyse leur glissement du penal welfareism, qui associait la sanction pénale à une ambition de réinsertion sociale, vers une culture du contrôle, marqué par une extension du filet pénal et un recul de la prétention des mesures à corriger les conduites. Filet et Simon, de même, ont analysé l'émergence d'une nouvelle pénologie caractérisée par la gestion des risques. Ces glissements s'observent en France également, mais avec une bien moindre rationalisation de ces approches. L'évaluation des risques demeure avant tout sociale et non actuarielle, et le discours du penal welfareism demeure fort, hérité des travaux de la défense sociale nouvelle et des ambitions de Paul Amor, après-guerre, que la peine privative de liberté ait pour but essentiel l'amendement et le reclassement social du condamné. On va voir pourtant les contradictions sur le terrain avec quelques extraits d'observations réalisés en maison d'arrêt, qui sont des établissements qui sont faits pour l'attente et non pas pour le reclassement social des condamnés et qui, malgré tout, enferment la plupart des personnes passant par les prisons. Les observations dont je vais parler sont des audiences qui se tiennent en prison et au cours desquelles un juge d'application des peines peut décider de moduler l'exécution de la peine et donc de réduire le temps d'enfermement effectif par un placement en libération conditionnelle, un placement sous surveillance électronique ou autre. L'audience contradictoire se tient dans une pièce dédiée de la prison, juste au niveau des portes de la zone de détention. Un juge d'application des peines, un substitut du procureur et une greffière sont venus du tribunal avec leur pile de dossiers. Les surveillants escortent les détenus un à un pour l'audience. Ceux qui n'ont pas d'avocat peuvent rencontrer celui de permanence dans un coin du couloir avant de passer devant le juge. Une dizaine de demandes seront examinées dans la matinée. Un homme condamné pour violence en état d'ivresse et en récidive qui demande une libération conditionnelle. Un étranger mutique dont la demande est irrecevable pour des questions de délai. Un homme de 28 ans, multirécidiviste, qui promet qu'il ne recommencera plus. Un Polonais incarcéré pour violence en état d'ivresse qui explique via l'interprète qu'il a une formation de plombier et trouvera un travail si seulement on le laisse sortir pour convaincre un employeur. Un Angolais en situation irrégulière, condamné pour vol dans un supermarché, un Français condamné pour escroquerie aux acédiques. L'Angolais s'appelle Angelo, c'est un homme noir d'une quarantaine d'années, et d'emblée, lorsqu'il pénètre dans la salle d'audience, il est accompagné de l'avocat commis d'office qu'il vient de rencontrer. Le juge d'application des peines le prévient que sa demande ne peut aboutir. Selon le rapport de la conseillère pénitentiaire, il n'a pas de projet. Sans titre de séjour, il ne peut produire de promesse d'embauche qu'à condition d'être régularisé. Le juge résume ainsi sa situation. Vous êtes de nationalité angolaise, vous êtes arrivé en France en 1986, vous servez actuellement une peine pour infraction à la législation sur les étrangers, en récidive et vol en récidive. Vous avez de nombreuses condamnations à votre casier judiciaire, 27, toutes liées à votre situation administrative. Il énumère les condamnations pour entrée ou séjour irrégulier, vol de l'identité d'un tiers, soustraction à une mesure de reconduite à la frontière, etc. Selon les propos de la juge du parquet, ce qu'on lui reproche à monsieur, c'est de se maintenir en situation irrégulière sur le territoire français. Comme il n'a pas de projet pour sa libération conditionnelle, je vais forcément émettre un avis défavorable. Le juge conclut l'audience en annonçant que la décision est mise en délibéré. En l'absence de solution sur le plan de sa situation administrative, il ne peut annoncer sa décision. En aparté, il qualifie la situation d'ubuesque et décide de renvoyer l'affaire. Le surveillant fait entrer le détenu suivant, un Français blanc d'environ 45 ans, qui a choisi de comparaître seul. Il a à la main un roman qu'il lisait en salle d'attente. Il a fait une demande de placement sous surveillance électronique afin de pouvoir reprendre son travail. Il est un peu intimidé au début de l'audience, mais prend progressivement de l'assurance. Il explique, à la demande du juge, comment il a participé de 2001 à 2005 à une escroquerie aux acédiques pour le compte d'une entreprise dont il était salarié comme technicien informatique, avant de fonder ensuite sa propre entreprise sur des activités légales de sous-traitance auprès d'une grande entreprise de téléphonie. Le juge est impressionné de son parcours. Aucun des détenus vus dans la matinée n'avait d'emploi stable avant son incarcération. Il indique qu'il est favorable à l'aménagement de la peine, qui permettra aux condamnés, en travaillant, de rembourser les sommes qu'il doit aux assédiques. La substitute souligne que la demande ne pose pas de difficultés particulières, tant sur l'hébergement que sur le projet professionnel, mais soulève une objection sur l'opportunité de la mesure, puisque incarcéré en mars 2009, après avoir obtenu un délai dans la, dans la mise en œuvre de son exécution de peine, il n'est libérable qu'en avril 2010. Et en le libérant dès juin 2009, ne mettons pas en péril le sens de la peine. Le juge d'application des peines remarque que, s'agissant d'escroquerie, l'important est que le condamné rembourse les sommes indûment perçues. Ne vaut-il pas mieux lui permettre de reprendre son travail ? Sur un plan pratique, la solution relève du bon sens. C'est celle que retient le juge d'application des peines. L'audience se poursuit en départageant ceux que la justice peut faire sortir de ceux qui resteront en prison jusqu'au terme défini de leur peine. Elle est le lieu où se négocie et se défait la rigueur de la loi dans un pari sur la conduite à venir du condamné. L'audience d'aménagement de peine en prison apparaît comme un moment particulier de jugement des détenus dans lequel il s'agit d'ajuster la peine en fonction de considérations sur l'utilité de la prison comme instrument de rétribution, punir une infraction, comme instrument de neutralisation, contenir un individu dangereux, mais aussi comme instrument de correction, susciter un changement moral. C'est donc un moment où va s'énoncer tout à la fois le sens de la peine de prison et en même temps la nécessité morale, pragmatique, d'en limiter l'usage afin de ne pas compromettre la réinsertion des condamnés. Ce paradoxe se traduit par une recherche d'équilibre et de compromis qui donne à la pratique du droit dans cette arène une dimension contractuelle particulière. La personnalité du condamné, les garanties socio-économiques qu'il peut apporter sont des éléments centraux d'appréciation. Il n'est pas surprenant dans ce cas que la pratique effective des aménagements de peine, au lieu de corriger les effets de la sanction pénale sur les personnes les plus précaires au nom d'un principe d'équité, ne fasse qu'aggraver ces différences. Obtenir un aménagement de peine, en effet, est un parcours complexe pour les détenus. Ceux qui n'ont pas accès à des canaux d'information spécifiques par leur avocat ou par des proches engageant des démarches ont souvent le sentiment d'être abandonnés, oubliés. Les conseillers pénitentiaires attendent d'eux qu'ils les sollicitent pour un projet spécifique, voire qu'ils trouvent par eux-mêmes un emploi à l'extérieur. Ils doivent pouvoir s'investir, se mobiliser, se bouger, selon l'expression de ces conseillers pénitentiaires, qui estiment que c'est aux détenus d'obtenir les pièces nécessaires à la constitution de son dossier. Une condition difficile compte tenu de la situation d'empêchement dans laquelle se trouvent les personnes incarcérées. Comme les détenus n'ont pas accès aux moyens de communication autres que le courrier, cette épreuve peut être un véritable parcours du combattant, comme en attestent les correspondances écrites avec les conseillers pénitentiaires. Ainsi, pour ce jeune homme incarcéré qui avait un emploi stable au moment de l'incarcération et qui, pendant plusieurs mois, a envoyé des courriers aux conseillers pénitentiaires pour se renseigner sur divers dispositifs d'insertion, demander à s'inscrire à des formations, solliciter un placement en semi-liberté et une date d'audience devant le juge d'application des peines. Dans un courrier, il écrit « Je sais que Madame X est en vacances jusqu'au 25 janvier, mais c'est grave urgent ». Car je passe devant le juge d'application des peines le 18 janvier et je ne peux pas me permettre de repousser encore l'aménagement de peine. Et donc j'aimerais savoir si vous avez contacté le centre de la SJT pour leur demander de faxer la prise en charge pour la semi-liberté que j'ai demandé pour l'aménagement. Il indique sur le courrier le nom et le numéro de téléphone du conseiller de ce centre de formation et conclut « J'attends votre réponse rapidement, SVP. Dans cette attente, je vous prie d'agréer mes salutations ». La procédure d'aménagement de peine peut ainsi apparaître comme une véritable épreuve si l'on considère que les détenus qui en font la demande doivent non seulement présenter des garanties de réinsertion et souvent trouver un emploi par leurs propres moyens, mais encore être capables de s'assurer que la procédure suit son cours et que les délais de transmission des pièces, notamment, sont respectés. Une épreuve moralement et socialement discriminante. Cette épreuve de l'aménagement de peine constitue alors tout autant un espoir qui permet de tenir en détention qu'un élément de la violence institutionnelle qui afflige les personnes détenues. Au cours d'un entretien, un homme détenu me dit « Ici, on vous donne des conseils, on vous indique la démarche, mais démerde-toi. » La SPIP, donc le service de conseil d'insertion et de probation, en 4 mois, je l'ai vue une fois. Elle répond au courrier, mais elle vient jamais. La lumière est allumée, mais t'existes pas. Paradoxal, dans une institution emblématique de la surveillance et du contrôle, ce sentiment d'abandon renvoie à l'impuissance face à ce temps d'attente. Les enquêtes empiriques sur les administrations de services destinées aux publics défavorisés, tels les bureaux d'aide sociale, les guichets des caisses d'allocations familiales ou ceux délivrant les titres de séjour en préfecture, montre combien le traitement des usagers est fonction de leur position sociale dominée et comment les longues attentes qui leur sont imposées participent à l'instauration d'une relation de sujétion bureaucratique. Comme l'écrit Pierre Bourdieu, l'attente est l'une des manières privilégiées d'éprouver le pouvoir. Du côté de celui qui l'impose, elle est manifestation d'un pouvoir. Du côté de celui qui la subit, elle est expérience de la soumission, modifiant durablement la conduite. Dans la prison, l'attente imposée aux détenus fait pleinement partie de la privation de liberté qui constitue l'essence du châtiment carcéral. Plus qu'une emprise sur le corps, bien que la dimension physique de l'enfermement soit irréductible, ou sur les âmes, que l'on cherche peu à endoctriner ou même simplement à éduquer, la prison est une mainmise sur le temps social des individus, arrachés à leur rythme professionnel, familiaux et intimes, pour être soumis au rythme carcéral. Si faire attendre exprime l'ascendant de l'institution sur les personnes qu'elle enferme, le vide de cette attente trahit cependant l'impuissance de l'institution à remplir les objectifs qu'elle se fixe. L'oisiveté est en effet réputée nuire à la mission correctrice de la prison, et ce depuis le XIXe siècle. Une succession de mesures ont été prises pour lutter contre le désœuvrement des détenus. La dernière formulée dans la loi pénitentiaire de 2009 est l'obligation d'activité qui est restée lettre morte faute de moyens alloués. C'est que la prise en charge des personnes incarcérées se trouve mise à l'épreuve par la faiblesse des ressources de l'institution destinée à donner un contenu à cette prise en charge, ou plutôt les inéquités aussi de l'attribution des ressources, hein, puisqu'on va plus facilement dépenser pour ce qui concerne les équipements de sécurité plutôt que les offres de services auprès des personnes détenues. Pourtant, l'exigence première en matière d'aménagement de peine est que le détenu se mobilise, se bouge, se prenne en main, comme je citais précédemment. Cette injonction paradoxale à l'activité dans un cadre contraint d'inactivité a quelque chose de très ironique. Elle est pourtant omniprésente et oriente l'appréciation du mérite du détenu. Il est donc attendu qu'il se prenne en charge lui-même, soit autonome financièrement, au lieu de vivre des mandats de sa mère, de sa compagne. Attendu qu'il se montre responsable, notamment en payant spontanément les indemnités dues aux victimes, les parties civiles. Cette injonction à l'autonomie participe d'un discours libéral sur la réinsertion. La personne elle-même doit être à l'initiative de sa transformation morale et non une intervention normative de l'institution. Le détenu doit être dans l'attente de son retour dans la société, précisément en montrant qu'il n'est pas attentiste, en sollicitant un travail, en s'inscrivant à des activités, même sur liste d'attente, en suivant un traitement, etc. Or, toutes les personnes n'ont pas les mêmes dispositions sociales pour se conformer à ces attentes et satisfaire l'exigence de travail sur soi, de conformation au cadre institutionnel, de transformation de ses conduites. Autre facteur d'inégalité, les degrés de priorisation mis en œuvre par les professionnels selon leur propre perception des urgences. Alors que j'évoque, avec une conseillère d'insertion et de probation, les problèmes de la gestion de masse en prison, elle me décrit le cas d'un homme arrivé à la maison d'arrêt 2 semaines plus tôt, incarcéré suite à une condamnation pour des faits d'escroquerie. Sa femme m'appelle, sa femme harcelante, elle m'appelait 12 fois par jour. Elle me dit « Mais vous vous rendez pas compte, c'est la première fois qu'il est en prison, il est complètement perdu, il va pas du tout bien. Je vous interpelle parce qu'on a créé une société ensemble il y a 1 an. Concrètement, c'est lui qui gère tout dans la société, on a 25 salariés. S'il revient pas, vous vous rendez compte, on va mettre 25 personnes au chômage. » Alors, la conseillère reprend, effectivement, le mec, je le vois avec des yeux jusque-là, déprimé de la vie, mais qu'est-ce que je fous là? C'est la première fois que je vais en prison, je ne sais pas comment ça se passe, tous ces jeunes qui sont là, on dirait que ça leur fait plaisir d'être là. Ils connaissent leurs potes machin, leurs potes bidule, moi, ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Elle commente, le mec, tu sens trop qu'il est en ultra souffrance. Bon, qu'est-ce que je fais? Je décide de faire un hors débat, il vient juste d'arriver, il n'a même pas déposé sa demande d'aménagement de peine, mais moi j'estime que laisser ce mec 3 mois dans cette situation, c'est un truc que je ne sais pas gérer, que j'estime être plus urgent qu'un mec qui va me demander un entretien, le mec ultra relou qui veut me demander tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, en l'occurrence, je suis allée voir un mec comme ça qui voulait me demander des trucs sur une formation, il ne sait même pas de quelle formation il parle, il croit que c'est un détenu que peut-être il lui a dit que... Alors qu'il attend un transfert en Martinique, alors moi je lui dis « Ok, monsieur, votre demande, elle est légitime, vous avez droit à une information, je vous la donnerai, mais je vous le dis honnêtement, je ne vais pas vous la donner aujourd'hui, ni demain, ni dans une semaine, parce qu'il y a d'autres demandes qui sont plus urgentes. » On voit dans ces propos combien les décisions d'organisation du temps de travail des agents se jouent des considérations relatives à l'importance attribuée à la vie humaine, à la vie biographique, considération pour le parcours des personnes, à la vie biologique aussi parfois, évaluation d'un risque suicidaire par exemple. Cette considération pour les personnes, qui est située socialement dans des appréciations de la dignité liées au statut social, produit très concrètement des temps de peine très différents. Alors qu'on pourrait la considérer comme une institution égalisatrice, du moins nivelante, la prison amplifie les différences de conditions. Le cadre carcéral accentue les contrastes entre ceux qui, entre guillemets, ont l'air d'y appartenir et ceux qui, selon une expression encore une fois entendue en audience, ont l'air de n'avoir rien à faire là. Dans l'audience d'aménagement de peine citée précédemment, au-delà des critères objectifs des garanties socio-économiques, dans l'évaluation des cas du monsieur angolais Angelo et de monsieur condamné aux escroqueries pour acédique, il y a d'un côté un homme blanc que sa couleur, comme sa manière de se tenir et de parler, rendent proche, sinon identique, au monde des magistrats. De l'autre, un homme noir dont le parcours de vie leur est incompréhensible, qui est à part, non seulement par sa condition de détenu chronique, mais aussi par sa condition de sans-papiers, qui incarne une altérité ordinaire en prison et qui, de ce fait, a l'air d'appartenir à l'univers de la prison. Le fait que le jugement de normalité excède les simples critères objectifs, comme le fait d'avoir des revenus légaux et de prendre soin de sa famille, et se double de critères subjectifs relatifs à la manière dont le condamné se présente, apparaît dans certains cas limites de jugement qu'on pourrait désigner comme d'approbation, par distinction avec des jugements de rejet. Comme lorsque le juge d'application des peines remarque en aparté que l'homme incarcéré pour escroquerie aux acédiques est tout à fait normal. Cette appréciation s'applique à des personnes dont la situation moins précaire détonne par rapport à la population carcérale ordinaire. C'est le cas également pour un jeune homme condamné pour complicité de faits de braquage, qui a travaillé en prison, indemnisé les victimes avec les revenus de ce travail. Il exprime des regrets et une ferme résolution à se réinsérer. Mais c'est sa manière générale de se présenter qui suscite une appréciation très favorable des magistrats. Il explique qu'il est conscient de la difficulté de respecter les contraintes du bracelet électronique, mais qu'il est capable de s'autogérer. Dans sa plaidoirie, l'avocat insiste sur l'importance de l'encadrement familial assuré par des parents fonctionnaires d'État et sur le comportement exemplaire du condamné. La substitute estime que la date de fin de peine est trop éloignée pour qu'elle soit favorable à la demande, mais dit que le profil de monsieur ne pose pas de problème. Aussi, lorsqu'à l'issue de l'audience, la juge laisse entendre que son avis est favorable, en aparté, la procureure souffle qu'elle ne fera pas appel. On voit ainsi combien, dans la pratique d'un droit élastique, laissant une large marge d'appréciation, ce sont des sentiments de familiarité, des émotions morales d'affect qui permettent de déterminer un choix entre des normes multiples. Dans ces circulations d'affects, de sentiments moraux, se forment des inégalités de vie en prison, amenant à réévaluer ce qu'on entend par le temps de la peine. La sanction carcérale, qui met à l'écart dans un espace clos, est fondamentalement une sanction par le temps. C'est un temps qu'on mesure quantitativement, on compte un quantum de peine, on fait son temps en prison, on peut obtenir une réduction de ce temps aussi selon différentes procédures. C'est un temps qui se vit qualitativement, un temps vide, inutile, celui d'une mort sociale de l'individu retiré à son entourage familial, amical, professionnel, celui d'une oisiveté de fait, puisque les activités en détention sont rares et que du fait de la surpopulation en maison d'arrêt, il faut plusieurs semaines en liste d'attente pour accéder à la salle de musculation, plusieurs mois pour accéder au travail. Un temps d'urgence aussi, celui de l'impatience, de la surcharge de travail, du surveillant qui doit faire passer aux douches 150 détenus de son étage et gérer en même temps les rendez-vous médicaux et qui n'a pas le temps pour une question sur un parloir, une commande de cantine qui n'est pas arrivée ou une question sur un aménagement de peine. La question du rythme de travail de la conseillère d'insertion de probation, pour qui les priorités sont déterminées par les audiences du juge d'application des peines et les calendriers de la fin de peine. Un temps inégal, donc, car sur le plan quantitatif comme qualitatif, ce temps de la peine n'est pas le même selon la condition sociale des personnes, selon leurs ressources. Autour de ces usages du temps, de ces expériences du temps, se rejoignent de multiples questionnements relatifs à la prison, à la gestion des flux de détenus, au principe d'individualisation de la peine, au respect des droits des personnes et, au final, à la production des inégalités face à la justice. Ces aménagements de peine participent en effet tout à la fois d'une logique gestionnaire, puisqu'il s'agit de retrouver une réponse au défi de la surpopulation carcérale, et d'une conception, je l'ai indiqué, sociale-libérale de la peine, envisagée comme devant être limitée au strict nécessaire, préserver les conditions de possibilité d'un retour à l'autonomie de l'individu sanctionné. Ce projet se heurte aux réalités concrètes de la maison d'arrêt, celle de cette incarcération massive de personnes précaires face auxquelles les agents se trouvent démunis. Les conseillers pénitentiaires ne peuvent rien faire pour eux et du point de vue des magistrats, ils n'entrent pas dans les clous des aménagements de peine. On voit donc comment les tensions contradictoires d'humanisation de la peine et de renforcement du recours à l'incarcération participent à produire des vies inégales en prison. Ce propos n'est pas un argumentaire contre le penal welfareism, mais au contraire pour qu'il se donne les moyens d'améliorer la condition sociale des personnes. C'est un appel à la responsabilité politique qui doit s'investir non pas de la manipulation des peurs, comme c'est trop fréquemment le cas, mais de la création des possibles. Je voulais rapidement, en conclusion, revenir sur la période récente, cette période de pandémie à laquelle nous sommes toujours confrontés, pendant laquelle il y a eu de fortes mobilisations autour de la question carcérale, par crainte des effets de l'épidémie dans les prisons, tout d'abord, des craintes qui sont ancrées dans un héritage historique de la prison comme milieu pathogène, particulièrement exposé au risque épidémique en raison de la promiscuité, on appelait le mal des prisons dès le 19e. Ces craintes se sont révélées fondées pour le cas du Covid, au regard des données collectées par les associations, en premier lieu l'Observatoire international des prisons. L'autre sujet d'inquiétude concernait les effets des mesures de restriction sanitaire, en particulier la suppression des parloirs. Des mouvements de protestation, d'émeutes, parfois violentes, ont eu lieu dans plusieurs prisons, à l'étranger comme en France. La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté en France, tout comme la haute commissaire des Nations Unies aux droits humains, ont appelé à la libération de détenus pour réduire leur surexposition à la maladie. Et effectivement, suite à ces appels, la loi d'état d'urgence sanitaire a prévu des sorties anticipées, des réductions de peine, conduisant à une réduction historique de la population carcérale, moins 10 000 en un mois, entre mars et avril 2020. Cette baisse a pourtant été tout à fait éphémère, puisqu'elle est suivie d'une nouvelle augmentation. On est revenu de 59 000 détenus en mai 2020 à 65 000 en mai 2021, et accompagné d'un retour du discours sécuritaire classique en période électorale et de promesses de construction de nouvelles places de prison. Le 19 avril dernier, le Premier ministre s'est engagé sur la construction de 15 000 places de prison supplémentaires. Le projet de loi pour une confiance dans les institutions judiciaires prévoit en outre une réforme des remises de peine qui supprime les remises de peine automatiques, ainsi que les possibilités de remise de peine pour certains types d'infractions. Cette loi prétend ainsi renforcer l'autorité de la sanction pénale. J'espère pourtant avoir montré, à travers les observations réalisées en maison d'arrêt, combien, dans les réalités concrètes de l'incarcération, la politique pénale est soumise à des contradictions inextricables, productrices d'iniquités. Or, c'est peut-être en reconnaissant la vulnérabilité des personnes détenues, et pas uniquement leur dangerosité, qu'on pourra éventuellement mettre un peu de lumière et d'espoir dans cette part d'ombre qu'est la prison. Une considération qui mobilise pour des alternatives plutôt que pour la facilité d'invisibiliser derrière des murs les vies qui troublent la société. Je vous remercie.